Bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous retrouvez aujourd'hui, comme prévu, donc un membre du collectif Profession Contrainte, c'est Thomas Lecuyot que j'ai le plaisir d'accueillir sur notre antenne pour nous parler bien de sa profession et puis de ce collectif fraîchement créé. Bonjour Thomas Lecuyot.
Bonjour et merci de nous recevoir.
Vous êtes infirmier aux urgences à Digne-les-Bains.
Voilà, c'est ça.
Et après un passage aux Antilles, c'est ça?
Un long passage aux Antilles, oui.
Ouais. Le métier d'infirmier, mais aux urgences, c'est aussi particulier. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce métier?
Pour mon cas personnel, c'est un hasard. Je suis arrivé aux urgences en tant qu'objecteur de conscience il y a 25 ans de ça, comme brancardier. Je me suis assez vite trouvé dans cette vocation, qui était tournée vers les autres, qui est un métier technique, qui est un métier intéressant.
Et oui, les urgences, comme son nom l'indique, c'est aussi dans l'urgence qu'il faut travailler.
Voilà, c'est un métier d'expérience au final.
Voilà, il faut s'adapter, il faut beaucoup... Quelles sont les compétences qu'il faut?
Eh bien, c'est un métier d'expérience, ça demande d'avoir une bonne technique. Beaucoup d'expérience et puis beaucoup d'envie d'aller vers les autres aussi.
Alors vous êtes arrivé donc à Digne il y a 4 ans dans ce centre hospitalier et ça fait bientôt 2 ans qu'on est en crise sanitaire. Qu'est-ce qui change pour vous avec cette crise?
Alors, cette crise, il faut voir d'où on vient pour mesurer le chemin qu'on a parcouru depuis. Ça va avoir son importance pour la suite de ce que je vais dire et des gens dont je vais parler. Le début de la crise, on a tous connu des heures effrayantes. Pas seulement les soignants, tout le monde. La population, les personnels de secours. Chacun a eu peur pour soi, pour ses proches, pour les enfants. On ne savait pas quelle était cette maladie. On ne savait pas si elle avait des cibles électives, c'est-à-dire est-ce que les enfants allaient être touchés, est-ce que les adultes allaient être touchés, est-ce que les anciens seraient touchés, on ne savait rien. Donc on a appris à connaître cette maladie. Nous, soignants, personnel de secours, on ne s'est pas défaussé de nos responsabilités, on a fait notre travail. Aussi sérieusement que possible, on ne savait pas organiser les filières d'accueil des patients, mais on a appris à le faire, de manière à ce que l'accueil soit le plus sûr possible. Et petit à petit, ça ne s'est pas installé un sentiment de sécurité, mais on a appris à maîtriser les risques. Donc, on a appris sur la maladie, chemin faisant, et on l'a de mieux en mieux traitée. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on connaît des phases d'accalmie, des phases de résurgence. On sait maintenant comment organiser le travail. On sait quelle charge ça représente. On sait que le lendemain est incertain, mais on a appris à gérer les choses.
Alors, on va en venir au pass sanitaire avec ses obligations actuelles. Est-ce que cette nouvelle contrainte ou cette obligation vaccinale pour les soignants et beaucoup de corps de métier qui a déclenché la création du collectif, qu'est-ce que c'est que le collectif Profession Contrainte?
Alors concrètement, le collectif Profession Contrainte est né au lendemain de l'allocution présidentielle du 12 juillet, où le président nous a tout de même annoncé des mesures assez improbables qui remettaient en cause quelque part le droit du travail, les droits des fonctionnaires, et qui nous donnaient une nouvelle obligation qui ne nous paraissait pas forcément pertinente. Donc tout cela était légitimement matière à discussion, mais visiblement il n'y avait pas de discussion possible avec le président. Donc nous pensions trouver dans le monde syndical finalement une mise en cause de cette parole-là. Donc nous nous sommes assez simplement tournés vers les syndicats, pour ma part hospitaliers, qui étaient eux plutôt en accord avec l'obligation vaccinale, et qui donc était sur une position très, très passive et très complaisante vis-à-vis de cette obligation. Ce qui nous a un petit peu étonnés quand même, dans la mesure où le président nous parlait clairement de suspendre des personnels, de suspendre leur salaire, de mettre des gens qui s'étaient démenés là, depuis 18 mois à la rue, avec leur savoir-faire, c'est-à-dire avec la connaissance de la maladie, la connaissance des moyens de se protéger, de protéger les autres. Donc tout ça nous paraissait aussi improbable que révoltant. Donc il y a une mise en réseau de plusieurs personnes pour voir un petit, pour commencer à se compter dans un premier temps et voir si nous avions possibilité de peser dans le débat. Donc nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes rapidement trouvés assez nombreux, finalement, dans le monde hospitalier, mais aussi dans le monde extra-hospitalier, c'est-à-dire que le tissu libéral était tout aussi concerné que le tissu hospitalier. Les éducateurs sont concernés aussi, les kinés, les infirmières, enfin, bref, c'est vraiment tout le tissu sanitaire qui est concerné par ces mesures. Assez rapidement, nous nous sommes trouvés assez nombreux, finalement, pour peser auprès des syndicats, qui se sont tout de même un peu plus engagés à ce moment-là. Et puis nous, nous avons continué notre petit bonhomme de chemin, continuerons à fédérer les gens.
Donc ça veut dire que vous faites passer, pour informer, j'ai vu que vous avez écrit une lettre au maire.
Voilà. En fait, pour être précis, dès le début du mois d'août, on a essayé d'anticiper un petit peu les conséquences de ce qu'allait être cette obligation vaccinale pour ceux qui ne souhaitaient pas y souscrire. Donc on a anticipé très vite qu'un certain nombre de professionnels allaient être suspendus et que le système de santé, mais aussi le système de secours, allait se retrouver mis à terre, très clairement. Là, on parle aujourd'hui, selon les derniers chiffres de l'établissement de Digne, de 35% du personnel qui ne serait pas vacciné et donc potentiellement suspendu dans 10 jours. Ce qui représente quand même un nombre assez conséquent.
Oui, 35%, c'est énorme.
C'est énorme. Ouais. Le même émoi se retrouve dans le monde du secours, avec un certain nombre de pompiers qui ont déposé leur BIP il y a 3 semaines devant la préfecture, ce qui représente un sacrifice énorme pour ces gens. Certains d'entre eux, là, sont dévoués à leur métier et à la population depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on leur a dit non. Votre expertise qui aujourd'hui est précieuse, demain n'est plus valable.
Et oui, et ça, c'est
donc évidemment, voilà,
c'est...
ayant anticipé tout cela, nous avons essayé dans un premier temps de communiquer avec l'ARS, qui est quand même l'autorité de tutelle naturelle à laquelle s'adresser, qui s'est trouvée très surprise de notre nombre, qui n'avait pas beaucoup de réponses à nous apporter quant à la question de comment allions-nous organiser le système de santé sans tous ces personnels. Dans un deuxième temps, nous avons été reçus par le biais des délégations syndicales auxquelles participent quelques-uns de nos membres à la préfecture. Même absence de réponse. On a aussi concerté la direction de l'hôpital où on a senti une certaine empathie, voire une certaine bienveillance à notre égard. Eux-mêmes ne disposaient pas des réponses à ce moment-là. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont trouvé une ligne directrice qui n'est pas celle que nous souhaitons. Et donc, dans l'absence de réponse institutionnelle, nous avons décidé de nous diriger vers les élus de terrain, vers les maires. Donc on leur a écrit un premier courrier pour les aviser de la catastrophe qui s'annonce, hein, parce que c'est bien d'une catastrophe dont nous parlons. Parce qu'avec 35% de personnel en moins, je vous assure qu'aucune structure de soins ne peut fonctionner.
Déjà qu'on manque cruellement de personnel soignant en général.
Là, on parle d'un système qui fonctionne sur la corde raide depuis déjà des années, au niveau humain, au niveau des moyens structurels. On est sur la corde raide. On ne peut plus faire plus avec la même chose. On ne pourra pas faire plus avec beaucoup moins. Ça, c'est une certitude.
Donc, à ce jour, vous êtes en attente de réponse.
Alors, on a quand même relancé les maires 15 jours après, puisque nous avons un peu de suite dans les idées. Mmh. On a eu quelques réponses, pas assez à notre goût, pas assez pour que les maires s'engagent à nos côtés, parce qu'on a besoin de leur soutien, on a besoin qu'ils viennent se montrer lors des manifestations à nos côtés, avec leur écharpe, pour peser dans le débat public. Pour le coup, On a décidé de mettre en place une cellule d'appel téléphonique aussi, qui donne de bien meilleurs résultats. Alors, on a déjà un certain nombre de maires qui ont décidé de nous apporter leur soutien, et on les en remercie chaudement.
Alors, cette cellule d'appel téléphonique, c'est pour qui ?
C'est pour tous les maires du département. Là, on a contacté les 192 maires, je crois, du département, par écrit, enfin par mail, et là, maintenant, par téléphone. Donc, si nous ne vous avons pas encore contacté, ne vous en faites pas, cela vient.
Donc, des appels à tous les maires, 192 maires.
Oui, on les a tous contactés.
Oui.
Tout le territoire, parce que les maires sont garants, finalement, de l'accès à la citoyenneté, hein, au travers des services publics. Et c'est bien de cet accès dont on parle. Cet accès aux soins, il est remis très clairement en cause dans 10 jours. Je tiens à ce que tout le monde en ait conscience.
Pour l'instant, le collectif, c'est 300 personnes ?
Alors, le collectif, c'était 300 personnes il y a 2 semaines. Le collectif, aujourd'hui, s'approche de 700 personnes.
Ce sont des personnes qui sont présentes à toutes les manifestations
Il y a des personnes qui sont présentes à toutes les manifestations, des personnes qui sont un peu plus sur la réserve aussi. Il y a des personnes très actives, d'autres moins actives. Après, on a quand même un rassemblement qui est hétérogène, mais qui partage un certain nombre de valeurs et de convictions.
On va faire une pause musicale.
Ben avec plaisir.
Avec The Cure, que vous avez choisi.
Merci beaucoup, ça n'engage que moi, mais...
Et on se retrouve juste après, donc Thomas Lecuyau du collectif Profession Contrainte.
Allez, merci.
All this, and I'm sure we will.
Et on revient donc après The Cure Out of This World à Thomas Lecuyot du collectif Profession Contrainte, infirmier donc aux urgences à Digne-les-Bains. On a parlé donc de cette cellule d'appel téléphonique créée pour les 192 maires du département que vous avez contactées pour faire part des positions du groupe. On va revenir sur les positions du groupe, du collectif.
Avec plaisir. C'est vrai que quand on allume la télévision, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, on voit les rassemblements et la contestation qui s'expriment en ce moment dans le pays, très sous-estimés d'ailleurs. Hein. Bon. On entend surtout les gens être taxés d'anti-vax, ce qui est quelque chose que nous ne rencontrons pas du tout, ou alors vraiment très marginalement dans les rassemblements. Donc, je vais m'exprimer pour le coup vraiment au nom du collectif pour préciser notre position. Nous sommes contre l'obligation vaccinale et les sanctions qui y sont liées au profit d'un libre choix éclairé par la balance bénéfice-risque individuel contre le pass sanitaire et pour une politique de santé ouverte au débat et surtout dégagée des calculs politiciens. Nous avons besoin de ramener de la raison dans le débat.
Voilà, qui est clairement exprimé.
Je l'espère.
Voilà. Anti-vax, c'est aussi une façon de vous mettre dans un...
C'est une façon, de, de réduire la contestation à bien peu de choses.
Et complotiste aussi, peut-être.
Oui, nous sommes tout à fait complotistes.
Vous n'êtes pas forcément anti-vax, mais contre l'obligation vaccinale, celle-ci en particulier. Est-ce que vous pouvez parler des bénéfices et des risques ?
Alors, nous pouvons en parler. Le terrain est toujours un peu glissant, parce que la science avance chaque jour, qu'on n'a pas de certitude. Il y avait un grand espoir lié au vaccin. Ce qui ressort de la fin de ce mois d'août, ce sont plusieurs études qui ont l'air assez concordantes, dans le sens où la bonne protection contre les formes graves de la maladie serait toujours assurée par les vaccins. Par contre, son efficacité contre la transmission et l'infection serait bien moindre que ce qui était attendu. Et c'est là qu'on a un grand problème quand même philosophique, dans le sens où le bénéfice collectif qu'on attendait de la vaccination, dans le sens où on allait casser les chaînes de transmission et donc réduire la capacité du virus à muter aussi, ce bénéfice-là, semble-t-il, est vraiment à revoir à la baisse. Du coup, on a un des deux piliers de l'injonction qui était faite aux soignants qui est en train de s'effondrer. Ce bénéfice collectif faisait partie d'une sorte d'impératif moral auquel nous devions nous conformer, qui peut s'entendre. Mais dans la mesure où il est à revoir drastiquement la baisse, le sujet devient quand même plus délicat à traiter. Il reste le bénéfice individuel, protection contre les formes graves, que nous ne nions absolument pas, mais qui plaide en faveur d'un choix éclairé et individuel. Pour le coup, un petit chiffre quand même qu'on peut citer, qui nous vient d'Israël, mais de bien d'autres pays, la Malte, Gibraltar, l'Islande. On voit que la population largement vaccinée connaît des pics d'infection. On a de plus en plus de pays dans lesquels les patients vaccinés sont hospitalisés. En Israël, on a introduit la troisième dose vaccinale initialement pour les personnes les plus vulnérables. De semaine en semaine, on a décalé l'âge d'accès de 10 ans. Là, on est arrivé à une troisième dose maintenant recommandée pour les personnes de plus de 30 ans. Donc on voit qu'on suit à peu près le même cheminement en France, ce qui pose question sur le schéma vaccinal global sur lequel nous n'avons aucune certitude. Donc la science avance, mais nous la regardons d'un air circonspect actuellement. Du moins, nous regardons sa traduction en termes politiques d'un air très circonspect.
Et quant à la troisième dose, moi j'entends beaucoup autour de moi des personnes qui étaient vraiment pour la vaccination, pour se protéger, pour protéger les autres, et qui, à l'annonce d'une troisième dose possible, on dit « Ah non, là je dis non ». Donc c'est... jusqu'où on ira avec...
Il faut regarder les choses avec raison. Il faut rester l'esprit ouvert, ne pas être borné, ni dans un sens, ni dans l'autre. Peut-être que cette troisième dose sera d'un grand bénéfice, pour les plus vulnérables, peut-être. Je ne sais pas si pour du point de vue de la transmission et de l'infection, elle sera d'un grand bénéfice. Elle a été introduite il y a 15 jours ou 3 semaines en Israël, donc on a pas assez de recul pour pouvoir en juger pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait aucune urgence finalement à poser l'obligation aux soignants avec le peu de recul qu'on a actuellement. Et avec les réserves qu'on peut exprimer.
Et puis l'obligation par rapport aux enfants aussi à partir de 12 ans
Alors, je vais vous renvoyer à toutes les études épidémiologiques que j'ai pu trouver, et plus simplement aux chiffres qu'on peut trouver sur le site Santé publique France, qui nous indiquent la sévérité l'atteinte aux personnes en fonction de leur tranche d'âge. Pour la tranche 0 à 45 ans, le risque de développer une forme grave ou de décéder du Covid est statistiquement de moins de 1%. Sur le tableau de Santé publique France, c'est indiqué 0%. Donc oui, il y aura toujours des cas. Mais sans comorbidité, votre risque est quasiment nul de développer une forme grave dans cette tranche d'âge. Donc, pour revenir à la vaccination des enfants, je ne saurais trop vous exprimer une position plus claire que celle-ci. Je crois qu'il y a eu 15 décès d'enfants depuis un an et demi. 15 décès du Covid depuis un an et demi, dont les deux tiers présentaient des comorbidités. Je ne sais pas si ça justifie de vacciner toute une tranche d'âge de la sorte.
Pour revenir aux urgences, pendant toute cette épidémie, enfin cette pandémie, est-ce que vous avez refusé les soins à des personnes en état d'urgence pour, enfin, je sais pas.
Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur, je fais des yeux ronds. Non, nous ne refuserons jamais des soins.
Pour ceux qui n'ont pas été vaccinés, en tout cas.
Non. Mm. Non, jamais. Je pense qu'il y a là une ligne blanche qu'aucun administrateur ne serait prêt à franchir. Refuser l'accès de l'hôpital pour des soins d'urgence à des gens dans le besoin, je pense que aucun administrateur, aucun directeur d'hôpital ne pourra valiser ça. Par contre, et je vais essayer d'être mesuré sur le sujet, parce que je peux comprendre, entendre leur position. Les directions hospitalières, là, sont dans une position fort délicate. Ils doivent appliquer une loi qui va visiblement mener le système à la catastrophe. C'est la consigne qu'ils ont. Je pense que beaucoup n'y souscrivent pas du tout, mais ils n'ont pas le choix. Je vous disais tout à l'heure que jusqu'à un certain point, la direction de l'hôpital n'avait pas de réponse sur les modes d'application de la loi, comment cela allait se transcrire dans les faits. Il y avait beaucoup d'empathie pour nous, une certaine bienveillance. Cela a changé. Là, 800 courriers ont été envoyés en accusé de réception aux agents de l'hôpital pour leur dire que s'ils n'avaient pas souscrit au schéma vaccinal d'ici le 15 septembre, ils seraient suspendus. En ce moment même, il y a des réunions de cadres à l'hôpital avec la direction qui se pose la question de savoir comment va fonctionner l'hôpital dans 10 jours. Il y a 2 semaines, ils n'avaient pas la réponse à cette question. Je ne sais pas si leur réponse est arrêtée à ce jour. Les informations dont nous avons pu disposer étaient qu'il y aurait un plan de sauvetage très dégradé qui passerait par des fermetures massives de lits. Donc il faut que la population comprenne bien où nous allons avec cette loi. La loi, c'est suspension de personnel, fermeture de lit. Il n'y aura pas d'alternative. La seule alternative, c'est de faire confiance aux professionnels qui savent se protéger, qui savent vous protéger, qui ont pris soin de vous depuis 1 an et demi, et pour certains depuis 30 ans, voire plus. Nous avons besoin de votre soutien maintenant. Je pense que là, j'ai clairement exposé les enjeux qui arrivent à très court terme. Donc il faut que la population nous soutienne. Il faut que les élus de terrain nous soutiennent.
Et que pensez-vous de ceux qui vous répondent « Vous avez qu'à vous faire vacciner et puis vous êtes tranquille ?»
Eh bien, que nous ne souscrivons pas à leur opinion.
Est-ce qu'on peut parler de chantage gouvernemental ?
Ah, on est dans un chantage tout à fait odieux. Et là, je vais parler à titre personnel pour ne pas engager le collectif Profession Contrainte avec moi. Je pense que très clairement, l'obligation vaccinale et toutes les contraintes qui se sont édifiées là pendant l'été sont le témoin d'une fuite en avant du gouvernement qui cherche à faire oublier ses responsabilités depuis 1 an et demi. Nous n'avons pas oublié l'affaire des masques. La population serait trop bête pour mettre un masque. Ce n'est pas utile. Nous n'avons pas oublié non plus nos collègues qui travaillaient et nous n'avons pas eu ce triste déplaisir à l'hôpital de Digne, nous avons quand même pu bénéficier de matériel. Mais nous n'avons pas oublié nos collègues qui travaillaient en sac poubelle, avec des masques cousus main. Nous n'avons pas oublié l'errance du déconfinement et du brassage de l'été dernier. Nous n'avons pas oublié que depuis un an et demi, il n'y a eu aucun renforcement des moyens humains de l'hôpital, qu'il n'y a eu aucun renforcement des moyens structurels et que même des lits continuaient d'être fermés pendant cette période. Nous n'avons pas non plus oublié les commerces essentiels et non essentiels. Donc, depuis un an et demi, nous voyons ce gouvernement essayer de faire oublier ses responsabilités. À l'hiver dernier, nous avions, au moment du premier confinement, les responsables étaient les gens qui fraudaient le confinement. À l'hiver, c'était les jeunes qui voulaient faire la fête qui étaient responsables de l'épidémie. Aujourd'hui, ce sont les soignants, depuis 6 mois, qui sont mis en cause. Et c'est une honte par le ministre, par le Premier ministre et par le Président qui font croire aux gens qu'on se contamine à l'hôpital. Ce discours-là, moi, personnellement, m'a fait bondir dès le mois d'avril. J'ai trouvé ça honteux. On nous a dit il y a 44 000 infections nosocomiales Covid à l'hôpital. C'est devenu la première infection nosocomiale de France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre brut. Effectivement, 44 000, ça fait peur. Alors, je voudrais juste proposer un petit exercice de calcul à nos auditeurs. Sur ces 40 000 personnes qui ont été contaminées à l'hôpital, vous avez 17 000 soignants. 17 000 soignants qui ont été pour la plupart contaminés dans les premiers temps de l'épidémie, souvent par défaut de moyens, parfois parce que les filières d'accueil des patients n'étaient pas encore bien organisées. Voilà, c'est un fait. Ça nous laisse un peu moins de 30 000 malades, de patients qui se seraient contaminés à l'hôpital. Donc nous avions posé la question à l'ARS de savoir combien il y avait d'hôpitaux en France, d'établissements de santé. Ils n'avaient pas la réponse, ce qui est assez cocasse. Il y a plus de 3 000 établissements de santé en France. Donc si vous prenez 30 000 patients, que vous divisez par 3 000 établissements sur une période qui a été mesurée du 1er janvier 2020 au 1er février 2021, donc vous divisez par 400 jours, cela vous donne votre risque nosocomial réel, c'est-à-dire la chance que vous avez d'être infecté en passant les portes de l'hôpital. Donc ce chiffre, 30 000 divisé par 3 000 établissements divisé par 400 jours, ça vous donne quelque chose comme 0,02 cas par jour et par établissement. C'est ça le réel risque nosocomial du pire de l'épidémie de Covid. La pire année de l'épidémie, c'était ça le risque. 0,02 cas par jour et par établissement. C'est ça sur quoi s'est appuyée la communication du gouvernement pour incriminer l'hôpital et les soignants. Comprenez bien que personnellement, je reste encore 6 mois après un peu choqué. Autant vous dire que ce risque, depuis, s'est encore amoindri, parce que nous maîtrisons parfaitement maintenant les filières, nous maîtrisons parfaitement les gestes de protection.
On fait une pause musicale.
Pink Floyd, On the Turning Away.
Turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. That you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Thank you.
Donc nous reprenons cette émission où j'ai le plaisir d'accueillir donc Thomas Lecuyot, infirmier aux urgences à Digne-les-Bains, qui nous parlait du collectif Profession Contrainte.
Donc nous disions tout à l'heure que nous arrivions à 700 membres d'ici peu, mais nous ne sommes pas seulement un groupe local. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le collectif est né vraiment au tout premier temps de la contestation hospitalo-sanitaire, sphère secours. Et on a un peu servi de moteur dans la région. Et on a été vite rejoints par d'autres collectifs qui sont nés un petit peu partout. Et actuellement, nous, on rejoint une fédération de collectifs, environ une centaine de collectifs qui existent sur toute la France. Donc il va y avoir beaucoup maintenant de mots d'ordre et d'actions communes pour signifier une résistance commune au gouvernement. Donc il y a des choses qui s'organisent. Bien sûr, demain, jour de contestation auquel nous participerons, comme à notre habitude. Mercredi, une échéance importante. Nous devrions être reçus à nouveau par l'ARS, par laquelle nous avions demandé d'être reçus en urgence il y a 10 jours de ça, qui nous a octroyé généreusement un rendez-vous sous 15 jours. Donc c'est vrai que nous ne parlions de rien de moins que de la destruction du système sanitaire ou de son écroulement, ce qui n'était pas un sujet très très important finalement. Donc mercredi, nous serons à l'ARS à 16h. Nous appelons tous les citoyens qui se sentent concernés par le sujet de l'accès aux soins, de la pérennité de l'accès aux soins, à venir nous rejoindre et à nous soutenir devant l'ARS. Il y aura d'autres échéances après, mais sur lesquelles nous communiquerons un petit peu plus tard aussi.
L'ARS est située où ?
L'ARS, dans les anciens locaux de l'hôpital, un petit peu au-dessus de Digne.
Anciens locaux de l'hôpital. Ok.
N'hésitez pas à relayer le message toute la semaine. Venez nombreux.
Donc, mercredi ?
Mercredi.
Mercredi, nous serons le...
Nous serons le 8, si je ne dis pas de bêtises.
8. Mercredi 8 septembre à 14h.
16h, 16h.
16h, pardon.
16h.
16h, donc devant l'ancien. Dans les anciens locaux de l'hôpital, devant l'ARS.
Tout à fait.
Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter ?
Écoutez, j'ai envie de dire un mot quand même, parce que j'ai survolé le sujet. Mais j'ai quand même envie de dire un mot pour tous les collègues que je vois régulièrement s'effondrer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous parler de gens là qui travaillent au service des autres depuis des années, depuis des dizaines d'années, qui étaient là pour assurer la continuité de l'État. Pendant les premières heures de l'épidémie, et qui étaient encore là tous les jours qui ont suivi. Ce sont des gens à qui on a demandé de venir travailler, par consigne ministérielle, à qui on a demandé de venir travailler même en étant malade, du Covid.
Ça, c'était quand ?
Ça, c'était il y a encore 3 mois. Mmh. On leur a demandé de venir travailler même malade, pour peu qu'ils présentent moins de 2 symptômes. Voilà. Donc ces gens-là qui sont aujourd'hui menacés, qui ont construit une vie autour de leur métier, ces gens-là qui sont menacés de tout perdre du jour au lendemain, ça fait des années qu'ils donnent tout. Et là, ils s'effondrent en ce moment. Il y en a beaucoup qui s'effondrent. Je ne devrais pas le dire à la radio. Il y a peu de temps, je sais qu'une de nos collègues est montée sur le toit de sa maison dont elle voulait sauter, par désespoir. Nous, on le voit à tous nos rassemblements, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont peur de l'avenir, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Il y a des gens qui ne supportent plus la pression, parce qu'il y a la pression étatique, il y a la pression institutionnelle, comme je vous disais, là, les envois d'accusés réception là, qui menacent de suspension. Il y a aussi une violence qui s'exerce au niveau humain, individuel, parce que la peur qui a été plantée dans la tête des gens depuis 18 mois eh bien, c'est planté aussi dans la tête des soignants, comme partout. J'ai des collègues qui se sont entendus dire qu'ils étaient des assassins, que c'était à cause d'eux que les gens allaient mourir, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Donc tout ça, c'est insupportable. Et il faudrait qu'on retrouve de la bienveillance les uns envers les autres et qu'on n'entende plus ces choses-là. Et il faut que nos directions à nous se rappellent qu'elles sont aussi là pour nous protéger. Donc maintenant, j'espère, sans trop y croire, mais j'espère qu'il va y avoir un sursaut. Et j'ai envie d'appeler notre direction, mais les directions de tous les établissements sanitaires, appeler tous les cadres à entrer en dissidence ouverte. Je leur demande de refuser d'appliquer cette loi, parce qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas cohérente. Il ne faut pas appliquer ce texte. Et il faut faire savoir au gouvernement qui nous mène à la catastrophe humaine et institutionnelle.
On a encore 5 minutes. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres...
Ah, il y a une chose dont j'ai vraiment envie de parler, parce qu'il y a beaucoup de recours en ce moment qui se mettent en place contre le texte de loi. Hein, les collectifs s'organisent, des associations se créent, donc des avocats s'en mêlent. Ce texte de loi est criblé de failles. Donc je pense et j'espère qu'il sera retoqué assez rapidement. Moi, j'ai quand même envie de citer le ministre Véran, qui va illustrer toute la cohérence gouvernementale en un propos. Donc il nous a rabattu les oreilles depuis un mois avec la situation catastrophique et apocalyptique que vivent les Antilles. Situation qui est effectivement très difficile et catastrophique, mais qui est liée de toute façon à un déficit de moyens structurels qui est patent hein, depuis des années. Je connais bien le sujet, le terrain. Donc je sais que ces hôpitaux et ces collègues sont en difficulté depuis très longtemps. Ils n'ont pas attendu la crise Covid pour être en difficulté, pour attendre plus de moyens de l'État. Donc Monsieur Véran, qui nous a parlé de cette situation catastrophique, qui nous a parlé de toute l'importance de la vaccination pour prévenir les catastrophes, nous parlons d'une population qui est parmi la moins vaccinée, d'une population soignante qui est parmi la moins vaccinée également. Donc le ministre Véran nous a expliqué, il y a 8 jours de cela, que les soignants des Antilles ne seraient pas concernés par l'obligation vaccinale parce qu'ils étaient au travail et qu'on n'allait pas leur ajouter cette contrainte. Donc je ne sais pas ce que signifie « être au travail ». Nous sommes actuellement en plan blanc, le plan blanc qui a été décrété parce qu'il y avait un état de saturation des lits par des patients non Covid, c'est bien stipulé dans les notes de service, et en anticipation de la vague de patients Covid qui n'est jamais arrivée. Donc nous sommes en plan blanc, les Antilles sont en plan blanc, nous sommes dans la même situation, nous faisons le même métier, nous traitons les mêmes patients. Je crois qu'il y a un petit vice par ici, comme une rupture d'égalité de traitement entre les fonctionnaires. Je crois qu'il y a là une faille énorme dans la cohérence gouvernementale et dans ce texte. Donc je pense très sincèrement que quelques avocats devraient s'emparer du sujet, qui, à mon avis, ne devrait pas faire long feu.
Je pense qu'il y a déjà des avocats qui défendent les droits.
Mais là, on voit toute ouais. la cohérence de ce gouvernement à l'œuvre en 3 phrases de Monsieur Véran.
Thomas Le Cuillot, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette tribune pour parler au nom de tous mes amis de l'hôpital et d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a encore quelques collègues de l'IME, j'ai plus le nom de l'IME, qui sont suspendus là actuellement parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ils sont déjà suspendus. Donc vous voyez que la situation se dégrade de jour en jour. Donc un grand merci à eux pour leur soutien. Nous, on fait de notre mieux pour les soutenir aussi.
Bon courage pour la suite. On espère que ça va aller dans le bon sens.
Merci beaucoup.
Pour vous et pour tous ceux qui sont dans cette obligation. Et puis, on peut se retrouver à la manifestation ce samedi.
Mais avec plaisir.
Samedi, donc, manifestation à Digne à partir de 14h sur la place du Général de Gaulle.
C'est ça.
Et puis, mercredi, donc, vous attendez aussi des manifestants devant l'ARS à Digne-les-Bains.
Nous attendons des citoyens.
Des citoyens.
Citoyens concernés.
Bien sûr. Bonne journée, bonne route.
Un grand merci de nous avoir reçus.
Et puis,
est-ce que je peux avoir un dernier mot ?
Oui, bien sûr.
Un mot pour mon copain Manu qui doit écouter à l'hôpital. Je pense très fort à toi. Et un mot pour mes filles, Télia et Eline, que j'aime de tout mon cœur.
Thomas, merci. Et puis, on rappelle que cette émission sera mise en ligne dès aujourd'hui sur notre site www.fréquencemistral.com, onglet de Digne-les-Bains dans nos émissions. Merci, au revoir.
Un grand merci à vous.